Moi, je suis là depuis les années 90, que je travaille un jardin au Perrier. J'en avais loué un pendant des années, puis là, j'en ai acheté un dessous, là. Et ça fait à peu près une dizaine d'années que j'ai remplacé quelqu'un qui s'occupait des canaux, et qui était à la retraite, et j'ai pris sa place. Donc ça fait bien une dizaine d'années que je serpente les canaux tout l'été pour les surveiller.
Moi, pour avoir l'accès, il faut que j'ouvre l'écluse pour avoir du débit. Je le fais parfois quand c'est moi que c'est pas ouvert et que j'en ai besoin. Et sinon, Bernard, il met pas mal en route parce que lui, il est assez disponible. Moi, je travaille, donc je suis pas toujours là. Et il coule tout le long, sur cette parcelle aussi, là, tout le long, et ça va après chez les voisins et ça continue.
Là, au printemps, il y a du travail parce qu'avant d'ouvrir, il faut que chacun nettoie son canal. Et après, le jour qu'on décide de mettre l'eau, on fait ça un samedi. On arrive de bonne heure au parking là-bas, pelle, pioche, dessécateur, et on repasse les canaux, on fait des équipes, parce qu'il y en a qui ne l'ont pas fait, alors bon. On la met en général vers le 1er avril. Et après, tant qu'il y en a.
Je pense que ça a évolué, Bernard, il y a 3 années, non? Que ça s'est fermé à partir plutôt de juin. Ça a duré quand même jusqu'à mi-fin juillet au début.
Ouais, au début, oui.
Donc c'était quand même pas mal par rapport aux cultures d'été. Et on pouvait faire des réserves dans des cuves. C'était moins... Voilà, on avait plus de certitude d'avoir de l'eau facilement.
Après, au 14 juillet, il n'y a plus grand-chose à arroser dans les jardins, après.
Ouais, c'est ça, ça peut...
Les grosses cultures sont finies, ouais. Quoi. Les patates, les trucs comme ça, ça a moins besoin d'eau, après. Et puis, à partir du 14 juillet, c'est rare si le bon Dieu ne nous envoie pas une orange.
Les tomates n'ont pas besoin d'eau,
hein? Non. Un petit peu, si. Ça dépend.
Non, pas au mois de juillet, il ne faut pas.
D'accord.
Parce que là, le principe... Non, mais... Le principe de la tomate... Quand on la plante, on l'arrose pendant les premiers temps. Et après, il faut éviter de l'arroser. Ça fait comme nous, c'est de la terre argileuse. Elle va descendre chercher l'eau petit à petit. Parce que si on les arrose, comme il y en a qui font, qui les arrosent pratiquement tous les jours...
C'est vrai qu'il faut les laisser s'enraciner, ouais.
Après, elles font des racines de périphérie. Et le moindre coup de soleil un peu chaud,
Faut pas les arroser beaucoup, mais il faut les aider un petit peu quand il y a les fruits,
au départ.
En fait.
Au départ,
au départ, après, et quand il y a un peu les fruits.
Oui, on a toujours
aussi.
Tendance à le remettre un petit peu.
Ouais.
Mais il ne faut pas trop mettre, il faut beaucoup pailler.
Ouais. Oui, c'est mieux. Par contre, les courgettes, elles aiment l'eau.
Oui, mais plus tu mets de l'eau, plus elles sont grosses.
Ouais.
Et quand tu les fais cuire...
Ou même s'il y a les courges aussi, quand même, il faut les aider un petit peu,
les courges. Oui, ça aime l'eau. Quand même.
Ce qu'on met à la mimée aussi.
Mais bon, si on a des réserves, comme là, il y a une cuve. Moi, j'ai une cuve, j'ai des tonneaux. Et puis, comme il y a des pompes, on pompe. On s'arrange entre voisins, on s'en service. Là, il y a un forage aussi.
Et du coup, moi, je me sers de la pompe du voisin, m'autoriser. Parce que là, ça s'est réduit de plus en plus.
Moi, j'ai fait un branchement pour la pompe à Maxime. On met la pompe, on remplit les tonneaux. Voilà quoi. C'est un système débrouille. Comme nous, on a une nappe qui, en principe, l'hiver se remplit bien, comme c'est une nappe alluviale, donc c'est la rivière qui l'alimente. Donc, elle se maintient bien. Quoi. Et puis, on a le rejet des montagnes. Donc, ça se maintient.
Je vis à Die depuis très, très longtemps. Et je me suis toujours baladée dans les jardins du Perrier. J'en ai eu à 2-3 endroits aussi, pour faire des petits potagers. Et quand j'ai été élue à la mairie de Die, je m'occupais à la fois d'alimentation et de biodiversité. On sortait du Covid. Et on a vu que finalement, la nourriture la moins chère et qu'on pouvait avoir la plus saine, c'était celle qu'on cultivait soi-même. Moi, je n'ai jamais considéré les jardiniers comme quelque chose d'accessoire. Chez moi, par exemple, ma mère faisait les vêtements. Et du coup, c'est quand on parlait pendant le Covid de circuits courts, les circuits courts d'approvisionnement. Finalement, le plus court des cours des circuits pour les fringues, ce serait de les faire soi-même. Et pour la nourriture, ça serait de la cultiver dans son petit carré de potager, quoi. Et du coup, on a cette zone très préservée qui est menacée par le fait qu'il y a 250 parcelles de jardin parce qu'il y a de l'eau pour cultiver. Donc certaines n'ont pas l'eau, il y a des prairies, il y a des chevaux dessus. Mais bien sûr qu'il y a une vigilance... à avoir sur qu'est-ce que ça devient un terrain irrigué, irrigable, qui ne l'est plus, comment préserver cette zone en jardin. C'est une zone qui date du 19e siècle, composée de 250 parcelles, une plaine qui est signalée comme une des terres les plus riches de la commune. qui est protégé au plan local d'urbanisme et qui va continuer à être protégé comme ça par un NJ, c'est donc une zone naturelle de jardin où l'habitat n'est pas autorisé, voilà, et qui a des règles assez strictes. Le Perrier n'a jamais été utilisé pour y mettre des bâtiments agricoles ou des bâtiments d'élevage, mais toujours préservé pour avoir une couronne maraîchère autour de la ville. Et on peut voir encore que des parcelles sont liées à des parcelles d'habitat dans le centre-ville, sur ces fameuses petites maisons d'Iwatz de 3 étages très étroites. Et souvent, il y avait une parcelle attachée dans le Perrier. Et ce qu'on peut voir sur un des rares documents qu'il y a au musée de Die, sur les jardins du Perrier, c'est qu'en fait, ces terres, elles ont toujours été protégées par les gouvernants de la ville, des bourgeois qui auraient eu la tentation d'y faire des demeures.
L'historique des jardins, en fait, ça date d'avant la Révolution française. Il y a un moment où il y avait eu des partages de ce terrain en parts. Et les gens qui avaient ces parts, on les appelait les parriers. Et c'est l'origine du mot Perrier. Perrier, ça vient des parriers. Et il y a eu un accord avant la Révolution française avec un des mouliniers pour dire qu'il devait nous garantir de l'eau dans nos canaux. C'est-à-dire, quand il a de l'eau dans son canal, il doit nous permettre de l'avoir, nous, dans nos canaux. Voilà. Donc ce canal a été créé en profitant d'un seuil naturel. Ils ont créé ce canal pour alimenter des usiniers. Donc il y avait des foulons, il y avait des meuniers, il y avait des tanneurs. Enfin, selon les époques, ça a changé, voilà, tout ça. Et maintenant, il n'y a plus qu'un usinier qui fait de l'électricité. Donc la Méroce, c'est un petit ruisseau qui prend sa source dans Railly. Donc Railly, c'est vraiment la source d'origine qui avait été exploitée par les Romains et qui a toujours alimenté Die en eau. Et qui coule toute l'année, même quand, parce que elle prend sa source en fait. Enfin, elle prend sa source dans le Vercors.
Il y a
donc c'est le
ruisseaux, ouais,
c'est
ouais.
Le château. Il y a deux ruisseaux, oui.
Il y a
celui des Planaux et Railly. Voilà. Et en fait, il prend la source dans l'énorme réserve d'eau des millions de mètres cubes du Vercors. Et donc cette eau, quand il y a de l'eau dans la Méroce, on peut la dériver dans le canal et elle permet de faire tourner les moulins. Et nous, si vous voulez, juste avant que le canal, alors je parle sous votre contrôle, parce que c'est vous qui connaissez les vannes. Juste avant que le canal se jette dans la Drôme, on peut se piquer, on a un piquage d'eau qui nous permet d'alimenter tous nos petits canaux. Et c'est monsieur qui s'en occupe et qui a un mérite fou, parce que comment, si vous n'étiez pas là, il n'y aurait plus rien.
Ah, mais bon, après moi, ils démerderont, comme on dit.
Ouais, mais bon. Donc il a un rôle très très important parce que c'est lui qui alimente tout ce canal et puis qui surveille que ça se passe bien, que les gens n'abusent pas, qu'on peut se passer l'eau, etc. C'est toujours un peu un principe de partage.
Pourquoi
ça ne coule pas? Et puis il y a des dérivations, donc on peut les ouvrir, on peut les fermer. Enfin, c'est. Voilà.
Il y en a qui oublient de les fermer, après ça pose des problèmes.
Voilà. Et c'est un système ancestral, quoi. Et moi, je trouve que nos ancêtres, ils savaient utiliser l'eau, ils savaient la gérer. Et on a toujours été quand même dans une région où on a la chance d'avoir de l'eau parce qu'on est au pied des montagnes, mais où l'été, on a quand même des problèmes d'assèchement des rivières et de choses comme ça, voilà. Mon grand-père cultivait ce jardin. Et donc, quand j'étais petite, l'été, avec ma grand-mère, on descendait tous les après-midi vers 16h, 16h30, quand il faisait moins chaud, avec le goûter. On prenait l'eau à la pompe, on buvait l'antésite. On avait comment il s'appelait, vous savez, le bedeau, Paul. Vous l'avez connu, Paul? Vous n'avez pas connu Paul? Mais vous n'êtes pas d'Iwa?
Non.
Si? Ah oui, vous n'êtes pas d'Iwa, c'est pour ça. Donc, Paul, c'était le sacristain qui avait le jardin là à côté.
Mais oui, le jardin, oui, d'accord.
C'était très copain avec mon grand-père. Donc,
il
y avait tous les potins de Die. Et il buvait l'antésite tous les après-midi. Voilà. Et mon grand-père descendait, dès qu'il avait mangé, vers 1h, il se mettait à l'ombre. Et puis, il commençait à bosser quand il faisait un peu moins chaud. Quoi. Et puis, nous, on descendait après avec ma grand-mère. Voilà, donc j'ai des grands souvenirs dans ces jardins. Et c'est vrai que moi, j'y suis attachée. De cœur, quoi. Donc, ça m'a fait de la peine, cette affaire d'eau coupée.
Donc, nous, l'hiver dernier, là, on a entrepris des travaux, là. Parce qu'à l'époque, on prenait toute l'eau du canal, et puis on prenait ce qu'on voulait, on rejetait le reste. Mais maintenant, il faut avoir un débit limité. C'est pour ça qu'on a fait, avec Jean-Jacques et d'autres, on a fait ce système de régulation. Donc déjà là, on est à peu près sûr d'avoir de l'eau, sauf si y a une grande sécheresse, il n'y a pas d'eau. Mais dans la logique, on est aux normes. Donc la préfecture nous dit, vous avez droit par exemple à 25 litres seconde, on règle la vanne qu'on va voir plus loin, et on sait qu'on est à peu près à 25 litres.
Le problème démarre d'une injonction nationale qui est rendre de l'eau à la rivière. Rendre de l'eau à la rivière, pour de multiples raisons, ça peut participer à tuer une zone. Ce serait le cas si on ne mettait plus d'eau dans nos jardins. On a une zone qui a un équilibre écologique qui date de très longtemps. Une variable peut détruire en rien de temps, la variable eau, peut détruire en rien de temps le milieu en question. La DDT, c'est-à-dire au niveau départemental, direction des territoires, a décidé de déclasser notre canal historique. Donc on s'est trouvé brutalement avec l'interdiction d'y mettre de l'eau dedans. Donc il a fallu négocier et la personne responsable de cette application de la loi nous autorise donc à mettre de l'eau à condition qu'on sache combien de litres secondes on met dans ce canal. Et je passe 2 mois avec des formules de physique sur la dynamique des fluides pour comprendre comment on peut trouver une solution mécanique qui nous garantit un débit sans électronique. Ça existe, il existe des déversoirs, des déversoirs rectangulaires calibrés, et il faut un niveau constant, donc je n'entre pas dans les détails. Mais on a la garantie, avec un montage qui respecte toutes ces dimensions, d'avoir une formule physique qui prouve que notre débit sera de tant de litres secondes. Des formules comme ça, il en existe depuis les années 1800. Il y en a plusieurs. Donc on en choisit une, qui est une formule qui est utilisée par la police de l'eau, également pour contrôler des débits. Et on fabrique cette chose-là et on fait des essais. Et du coup, le responsable de la DDT valide notre truc, qui veut dire qu'on a de l'eau, mais que cette eau ne vient pas dans la négociation avec la DDT. On n'a pas l'eau en permanence. Et pour le moment, on a retrouvé un débit largement suffisant, mais qui nous met des mois de carence où on accepte de laisser de l'eau à la rivière et aux irrigants qui sont plus bas, parce que l'enjeu est là. L'administration en est à rendre de l'eau à la rivière, mais n'en est pas à protéger la nappe. Et donc, ils nous disent, mais puisque vous n'avez plus de canal, pompez dans la nappe. Mais on va pomper dans la nappe, alors que nos jardins, notre nappe n'est plus alimentée par ce canal, qui est pour eux, mais qui va dans la nappe. Donc, c'est double peine pour la nappe. On va y puiser dedans et on la prive d'un apport qui date depuis des siècles. Voilà. Il y a 2 types de pompage. Il y a les pompages historiques. Nos anciens qui enfonçaient un tuyau, et quand on a de l'eau ici autour de 2 mètres, 2 mètres 50, nos anciens avec leurs tuyaux, en les enfonçant par tronçon et en vissant le suivant, en tapant la masse, avaient ce qu'on appelle une pique. Cette pique, elle a la grosseur d'un gros tuyau de chauffage, du genre entre 3 et 4 cm de diamètre, et elle permettait d'avoir une pompe manuelle. Et bien sûr, la consommation avec une pompe manuelle est très faible. On remplit un arrosoir, on en remplit 2, et puis on est fatigué, quoi. C'est, voilà. Se sont installés sur ces pics des pompes thermiques qui permettent d'aspirer de l'eau, donc c'était une amélioration. Et puis, la nappe phréatique descendant un petit peu dans les moments de sécheresse, certaines de ces pics historiques se sont trouvées sans eau. Et la mode des forages est arrivée. Le forage étant un tube de 11 cm qui est rentré dans la nappe, un tube qui fait crépine, qui donc va pouvoir permettre de descendre une pompe immergée. Et donc cette pompe immergée, qu'elle soit solaire ou thermique ou sur le réseau électrique, va avoir très peu de difficultés puisqu'elle n'a pas besoin d'aspirer. Contrairement à quand on est en surface, elle a l'eau, elle est submergée par l'eau, donc elle n'a aucun problème pour aspirer, et donc elle a une très grosse puissance de refoulement. Et donc là, alors, on fait couler beaucoup d'eau si on n'est pas raisonnable, parce que effectivement, ça devient et des forages comme ça, je ne sais pas combien il y en a, mais plus de 20. Un particulier qui fait un forage déclare son forage. Pour le moment, cette déclaration va dans un placard à la mairie, on n'en fait rien. Un jour, on en fera peut-être quelque chose. Et il a du coup un droit de 1000 mètres cubes à l'année, ce qui est colossal. C'est complètement démesuré. Mais pour le moment, la loi, c'est ça. Et bizarrement, on n'y a pas touché. Alors que jamais aucun jardinier ici ne va se permettre d'avoir une telle consommation. Donc on est au milieu d'incohérences au moment où on cherche des solutions, où l'administration fait des actes ponctuels qui ne sont pas parfaits, etc. Voilà.
Je suis très remontée contre l'histoire du canal qui a été coupé. Parce que je pense que c'est bien de laisser couler ce canal quand il y a de l'eau dans la Mérosse pour pouvoir justement entretenir cette nappe et la garder pleine. Enfin, moi, je trouve que c'est un trésor. Je trouve que ce lieu est magnifique. Et moi, ce qui me faisait peur, c'est que je me disais, si on alimente plus ce canal, il y aura moins de grenouilles, il y aura moins d'oiseaux. Donc, je trouve que c'est vraiment un trésor. Et ce trésor est dû au fait qu'autrefois, la Drôme inondait. Donc, du coup, ça n'a jamais été loti. Et que quand ils ont fait les digues, et ben ensuite ils ont quand même gardé.
Ils ont fait des digues, sinon le Perrier n'existerait pas.
Ben sinon, ça serait dans l'eau. Il y a des vieilles gravures du 18e.
Non, mais ce serait une gravière. Hein,
ce serait une gravière, ouais, tout à fait.
La lithographie, je ne sais plus de quelle année que j'ai, montre que la Drôme couvrait tout ça jusqu'à la voie ferrée là-bas. Donc c'était couvert et on voit sur la lithographie des radeaux transportant du bois. Ce qui donc veut dire qu'elle a été navigable. Et c'est pour ça qu'elle a ce statut domanial, donc elle appartient à l'État. Un ruisseau appartient au propriétaire jusqu'au milieu de l'eau. Une rivière domaniale, le propriétaire n'est que jusqu'à la berge où est venue l'eau. Et la rivière est sous la responsabilité de l'État. Voilà pourquoi rendre de l'eau à la rivière ici, les services de l'État s'en occupent, puisque c'est rendre de l'eau à la rivière domaniale.
On se sert des forages, hein. Parce qu'on n'a plus d'eau bientôt.
Monsieur, ça va revenir au mois de mai, au mois d'avril, on en aura.
Combien de temps?
Le temps qu'il y en aura.
Là, de toute façon, j'ai des forages, j'ai l'année.
Oui, non, mais c'est pour ça que même à la limite, s'il n'en coulait pas beaucoup dans le canal, il faudrait que ça coule, ça maintient la nappe.
Oui.
Et oui, c'est un peu le but, ça.
Oui, mais dans quelques années, il n'y aura plus.
Non, puis il n'y aura même plus de jardiniers.
Oui, mais c'est sûr. Toute cette génération...
Les jardins vont se vendre, une caravane, un barbecue, et puis...
Mais là, c'est... La forêt vierge. Il était à ma belle-mère, ce jardin. Bon, je suis venu, j'avais 20 ans.
Ouais, t'es presque un des plus anciens du Perrier, là.
Oh, oui.
Qui travaille le jardin.
Il y a toujours quelque chose à faire.
Là, pour l'instant, il n'y a plus rien, il a tout enlevé. Mais...
Oui, mais là, il faut protéger maintenant.
Oui, parce qu'ils en ont du froid, hein, cette semaine.
Je coupe les... Topinambour là, pour le broyer et mettre sur les fraises.
Avant, il y avait plein de jardins comme là, c'était tout en légumes à une époque. Mais il y a 50 ans, tu vois. Donc après, là il y avait du jardin, là à côté il y en a un peu parce que c'est un gars qui l'a repris. Mais là maintenant c'est des gens de Valence. Bon, il vient tondre et puis point barre quoi. Il peut pas faire autre chose quoi. Là, il n'y a pas bien longtemps qu'il était encore travaillé, puis c'est vendu. Ah bon. Là, c'est pareil, c'est tout des jardins, c'est tout un culte. Là, ils sont une famille nombreuse, là. Ils ont 7 ou 8 enfants. Vous avez vu dans l'état où c'est. Ils n'arrivent pas à se mettre d'accord pour le faire nettoyer. C'est du n'importe quoi. Alors, il y a des petits bouts comme ça qui se travaillent là. Mais bon, c'est limité quoi. Là, c'est pareil, c'est une dame qui est toute seule, elle en fait un petit bout là, elle a son jardin. Après, bon, mais... Là, c'est pareil, là, le monsieur, là, c'est un super jardinier, mais bon, il n'est pas tout jeune, il fait ce petit bout, là. Il a sa serre. Voilà, quoi, c'est... Là, c'est pareil, avant, il y avait un jardinier, là, mais il en faisait. Puis bon, ça, c'est vendu, puis bon, puis voilà. Les gens, ils sont sur Grenoble, alors bon... Ils ont un peu aménagé la cabane, et puis... L'été, ils font un petit peu de légumes, mais pas bien. Là, avant, c'était plein de jardins, du légumes de partout. Là. Mmh. Puis maintenant, mais... Là, c'était un jardin, ça. C'était un Algérien qui le travaillait, il était employé communal. Il faisait tout à la pioche. Après, vers la fin, il avait eu un motoculteur, mais... Il fallait voir la pioche. Et les gamins, ils venaient à la pioche. Ils disaient pas au père, non, non, on veut pas. Tu prends la pioche. Et maintenant, c'est... Bonjour. Par contre, c'est un circuit de balade, là. Hein.
Ouais.
Le dimanche, là, quand il fait beau, il y a beaucoup de promeneurs. Hein. T'es allergique ?
Comment va Bernard ?
Bonsoir. Bien.
Il vous fait visiter les jardins, ouais. C'est magnifique.
C'est vrai.
Il y a des choses à voir, il y a certainement une âme là-dedans, ouais. Il y a une histoire quand même.
Il y a moi déjà.
C'est l'âme. Mais aujourd'hui, on rencontre pas grand monde aujourd'hui.
C'est bizarre.
Mais qu'il fasse beau, qu'il fasse pas beau, il faut sortir quand même.
Oui, oui.
Il faut prendre l'air.
Mais ça se rafraîchit quand même, hein.
Oui, bien.
Mais non, non, c'est...
On est le 11 novembre. Ouais. Hein. On avance. Hein.
On devrait avoir 30 cm de neige.
Allez, bon après-midi.
Merci.